として。
Good afternoon, everyone.
Bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Mike Isira. Je suis à la tête de comité de conformité à Dragon. Je comprends que nous sommes la dernière présentation pour vous aujourd'hui. Donc tout le monde est très très excité d'entendre notre présentation. Il y aura un cocktail après. Hein. Nous sommes contents d'être ici quand même. C'est vraiment ce moment que je chéris durant parler aux nouveaux venus parce que j'aime bien partager les choses que font notre département. Aujourd'hui, nous avons Stacy Burnett qui est avec moi, qui est une des directeurs dans l'équipe de conformité. J'ai aussi deux membres qui sont avec moi aussi, qui doivent être là dans le fond de la salle. J'ai Owen Smigalski qui peut se lever et Carlos Alvarez. Nous sommes vraiment très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui. Ce que nous espérons faire à travers cette présentation, c'est de partager avec vous une grande idée de notre département, une idée un peu de ce qu'on fait et une mise à jour de ce que cette équipe de conformité a fait et quelles sont les statistiques. On vous a présenté aujourd'hui le modèle de structure d'ICANN, mais de notre perspective, on voulait vous montrer où notre service, notre équipe est. Nous faisons partie du personnel ICANN. Nous sommes dans ce modèle multipartite et nous remplissons notre rôle comme prévu dans le contrat. Le département de conformité contractuelle comprend 12 membres. Et nous avons des capacités qui sont très différentes. Nous avons des avocats, nous avons des gens qui ont des historiques dans le droit, dans différents domaines d'expertise, mais nous avons aussi d'autres membres du personnel qui ont des historiques dans le business, dans le commerce, dans la technologie. Nous avons donc des capacités variées. Ça nous a beaucoup aidé. C'est surtout les gens qui parlent des langues étrangères. Je suis obligée de compter. On n'arrête pas d'embaucher. Donc, nous avons dans notre personnel des gens pour parler 7 langues différentes. Pourquoi est-ce important? Même si l'anglais, c'est la langue officielle pour les communications et pour échanger les courriels. Mais nous sommes rendus compte beaucoup, très souvent, que quand nous avons un dialogue, si vous ne pouvez pas comprendre l'autre partie ou le problème dont on parle, et si la personne avec qui vous parlez peut comprendre votre culture, votre historique, ça aide énormément. Donc, dans ce département, nous avons notre organisation qui est divisée en 3 piliers. Penser, enregistrer, registrant. C'est là où vous voyez nos ressources se déplacent dans ce domaine. On surveille les problèmes de conformité pour les registres et les registraires. Et nous avons quelqu'un qui s'occupe des risques, qui fait les audits. Nous avons quelqu'un qui mesure, qui fait des rapports, des performances. Et ces domaines-là sont critiques. Parce que comment faisons-nous nos activités journalières et que nous faisons les stratégies pour le futur? C'est comment nous faisons notre planning de stratégie. Nous voulons voir sur les risques. Nous nous basons sur quels risques. Nous devons donc les mesurer et faire des rapports qui soient efficaces. Nous avons un nouveau membre qui va nous rejoindre en juillet 2012 et nous avons 2 positions ouvertes. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé à cette fonction dans le bureau de conformité, nous aimerions trouver quelqu'un dans la région Asie-Pacifique parce que nous avons besoin de renfort dans ce domaine. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même êtes intéressé, envoyez-nous quelque chose sur notre site. C'est important de voir ce que nous faisons et de voir où nous sommes dans la structure à laquelle notre vision, mission et approche, et c'est le cœur de notre opération. Notre vision en tant que comité, c'est d'être un fournisseur de services de confiance En tant que personnel ICANN, nous livrons un service très spécifique, pas seulement pour l'ICANN, mais pour toute la communauté entière d'ICANN. Nous avons, comme vous savez, vis-à-vis de notre modèle multipartite de ICANN, il y a tellement de partis qui sont inclus dans ce modèle multipartite. Il y a des partis qui sont contractés. Sous contrat, il y a des organisations de support et chacun de ces groupes et tous les groupes dans ce modèle multipartite a des attentes différentes au niveau des conformités qui sont basées chacune de leurs perspectives. Donc pour que notre groupe puisse vraiment être en confiance, nous devons travailler comme en départ. Notre département doit vraiment baser leurs procédures sur et être très transparent. C'est pour ça que notre vision doit devenir, nous devons devenir un fournisseur auquel on fait confiance pour que, mais nous devons comprendre toutes les attentes de chacun des parties qui sont incluses dans ce modèle. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Ça prend du temps. Notre mission est alignée avec la mission ICANN. C'est à voir avec la stabilité, la sécurité, la robustesse du DNS. Et on doit regarder, que s'assurer que toutes les obligations soient remplies. Et cela nous aide dans notre approche. C'est bien qu'on nous fasse confiance, mais il faut qu'on puisse montrer cela à travers la collaboration, la transparence et la communication. Et en dernier, c'est à travers le fait que nous nous assurons que le contrat est suivi. Vous m'entendez toujours focalisé sur la conformité contractuelle. Je sais que nous avons une audience qui est très diverse, des historiques différents, pas seulement géographiques, mais aussi des historiques de commerce, enfin de business différents. On n'a pas tous les mêmes jobs. Notre rôle est focalisé sur le côté contrat. Notre contrat, c'est l'outil que nous utilisons pour nous assurer que la relation, les procédures soient bien suivies avec les parties comprises. On s'attend à ce que les performances soient suivies entre toutes les parties. On suit ces relations. Et je voudrais aussi rappeler à l'audience, nous ne sommes pas un gouvernement ou nous ne sommes pas une force de l'ordre. Nous ne sommes pas les forces de l'ordre. Cela veut des fois que cela cause des plaintes, qui sont des gens qui sont des gens qui ont des plaintes et qui sont frustrés. Mais nous ne pouvons pas adresser ces sujets-là. Notre autorité est assemblée autour du contrat. Nous nous occupons du contrat. Des gens qui ont parlé aujourd'hui vont vous en parler du modèle ICANN, qui sont les registraires, qui sont les registres. Nos contrats, encore une fois, je voulais vous voyez les deux grandes flèches sur l'écran. Nos obligations sont avec les registres et les registraires. Il y a donc une ligne entre les registres et les registraires. Et il y a une ligne entre les registraires et les revendeurs et les registrants. Ces relations sont gouvernées directement par les parties contractuelles. Mais certains des termes dans les contrats spécifiques font partie du contrat original. Je ne vais pas entrer dans les définitions, mais on vous a mis un petit peu d'informations sur cette diapositive. L'approche et le modèle de conformité contractuelle est le modèle que nous avons établi l'année dernière. Nous voulons suivre ces normes et les faire passer à travers toutes les parties incluses, à travers toutes les activités que nous entreprenons. La culture de conformité contractuelle part de la base et ça suit le modèle de multipartite de ICANN. Les parties contractées doivent remplir leurs obligations et la façon dans laquelle nous suivons ça, nous regardons, moi aussi je viens d'une industrie différente. Dans le passé, nous avons eu une évaluation personnelle. Nous mettons cette responsabilité sur les parties qui sont contractuelles, les parties contractées. Et on leur demande qu'elles s'évaluent elles-mêmes. Et on base donc nos C'est encore un pilote, un essai. Nous allons faire une évaluation. Nous allons voir combien de temps ça prend. Et nous allons rassembler toutes les informations et nous allons prendre une décision comment nous allons poursuivre les activités préventives, les résolutions informelles et formelles. Les résolutions formelles font partie de notre approche. Vous allez en entendre parler. Nous allons en parler, mais nous allons opérer sur ce mode et nous allons nous mesurer contre ce modèle. Nous avons des phases différentes aussi. Je veux vous montrer notre approche. Nous recevons des plaintes à travers des manières différentes. Aujourd'hui, nous avons un couple de systèmes que nous utilisons depuis plusieurs années. Nous sommes dans le procédé de consolider et d'améliorer. Ainsi, nous pourrons avoir seulement un système. Il y a une façon de faire, donc une plainte en ligne. Ça nous arrive vis-à-vis de courriels, de coups de fil, mais nous demandons à ce que les plaintes soient envoyées à travers le système parce que comme ça, on peut les suivre mieux. Importe d'où elles viennent, ça passe par la phase préventive. Cette phase, c'est notre façon de collaborer avec les parties pour adresser cette plainte. Et c'est aussi, on en parle comme une résolution informelle. Pourquoi est-ce important? Je dis, pourquoi vous n'exécutez pas tout de suite? Mais des fois, on reçoit les plaintes qui sont pas forcément valides et qui sont pas applicables. Donc, on doit guider la personne qui fait la plainte vers la source, vers la personne qui peut l'aider. Donc, des fois, nous avons à faire une enquête. Des fois, c'est pas seulement un problème contractuel. Donc, nous prenons en compte à travers cette phase de résolution informelle. On explore et on rassemble les faits pour voir vraiment si c'est un problème qui est contractuel. On appelle ça notre approche en trois étapes. On obtient une communication à travers email, à travers un courriel, par exemple, et nous sommes très clairs. Quel qu'il soit, registre au registraire, nous savons si c'est une première demande, une deuxième demande ou la dernière ou la troisième. Maintenant, ils savent, oh mon Dieu, je suis dans la phase résolution informelle et le service de conformité me demande des dates, des faits. Si on ne reçoit pas, nous, une réponse, ça va au deuxième niveau, au prochain niveau. On essaie aussi d'approcher la chose d'une façon collaborative. On ne dépend pas seulement sur les courriels. En général, on reçoit la première requête par email, par courriel, et ensuite, on prend le téléphone, un membre du personnel appelle, et puis on dit, on vous a envoyé une demande, une notice, on ne vous a pas entendu, on n'a pas entendu votre réponse. On essaie d'être accommodant, mais bon, d'essayer d'utiliser tous les modes de communication. Et au bout de la troisième demande, on envoie aussi un facsimilé à la partie en question. Si après cette troisième étape, après que cette date arrive, on n'a pas entendu ou la chose n'a pas été corrigée ou il n'y a pas eu d'action qui a été prise, on décide vis-à-vis, par rapport au cas précis, on se dit, est-ce qu'il est temps maintenant de passer au prochain niveau? Et là, on passe au prochain niveau. Et on publie cette plainte sur notre site. C'est critique. C'est un point critique dans notre approche. Et il y a des fois des gens qui veulent savoir ce qu'on fait depuis le début. Mais on publie pas ce qui se passe au stade informel, parce qu'on veut quand même être courtois vis-à-vis des parties qui nous posent. On veut adresser toutes les requêtes. Si à ce moment-là on n'est pas arrivé à une entente, là on publie parce que la communauté doit savoir ce qui se passe entre qui et pourquoi. Et c'est là où notre approche. Si vous êtes vraiment intéressé à apprendre plus sur ce sujet, il y aura plusieurs sessions qui parlera plus de ça en plus en détail. Donc, sur la prochaine diapo, c'est notre plan de 3 ans. Ça fait un moment que je suis avec Anne déjà et on a développé dès le début un plan de 3 ans. On en est à la deuxième année. Ce plan de 3 ans focalise sur l'élargissement du nombre de membres de notre personnel. Aussi, pas seulement il faut qu'on ait plus d'expertise pour qu'on puisse devenir plus efficace. On continue donc à développer des métriques, des matrices, mesurer les choses, c'est très important. On continue à construire notre stratégie. On essaie de faire un rapport annuel et en dernier, on essaie de travailler pour que notre département soit prêt pour le lancement des nouveaux GTLD. Ce plan montre que nous sommes sur la bonne voie pour livrer la fin du plan en 2013. Nous travaillons pour être prêts pour les nouveaux GTLD, comme nous l'avons dit. Nous focalisons toutes nos ressources. Nous essayons de connaître pas seulement les contrats, mais tous les termes du contrat pour en explorant ce dont notre personnel a besoin, pour savoir quelle formation nous avons besoin, quelles sont les capacités dont nous avons besoin. Nous regardons aussi les outils que nous avons déjà, les procédures que nous avons déjà. Est-ce qu'on a besoin d'améliorer cela? Est-ce qu'on doit changer? Nous préparons aussi tout ce dont nous avons besoin. Nous voulons être sûrs que les messages soient constants. Nous aimons bien adresser les choses de façon claire quand nous parlons avec nos parties, les parties concernées. Avec ça, je voudrais aussi vous informer que si vous voulez apprendre plus sur les registraires et les registres, nous avons deux sessions de planifier pour mercredi, une à 2h et une à 3h. Une à 14h, une à 15h. Dans ces sessions, nous focaliserons sur les opérations, les aspects des opérations. Qu'est-ce qui se passe? Nous partagerons ces matrices que nous avons mises à jour. Nous allons parler plus en détail des mises à jour des opérations. Si vous avez du temps, s'il vous plaît, rejoignez-nous à ce moment-là. Bon après-midi, je m'appelle Stacy Brunett, je suis directeur des conformités contractuelles, je travaille avec elle et avec d'autres membres. Puisque c'est une session de nouveaux venus, je vais essayer de parler de façon plus simple. Je sais que vous avez entendu déjà beaucoup d'acronymes aujourd'hui et je sais que ça peut être de la confusion totale quand vous allez aux réunions à Cannes pour la première fois. Moi, je sais que j'étais très confuse pendant au moins les 3 premières réunions. Parce que c'est un nouveau terrain, c'est des nouveaux acronymes, c'est pas toujours facile de savoir tout ce que cela veut dire. Donc je vais essayer de parler simplement et je vais essayer de parler comme si vous ne saviez rien. Donc j'espère que ça va vous aider et que ça va rendre le reste de votre réunion pour la semaine un petit peu plus plaisant, puisque comme ça vous saurez ce qui se passe. La première diapositive dont je voulais vous parler s'agit de voir pourquoi la conformité contractuelle est importante pour tout le monde. Pourquoi on a un département qui s'occupe de cela? Tous les gens qui sont là étaient là avant que, la plupart d'entre vous étaient là avant que l'Internet devienne si populaire. Il y a beaucoup de gens ici qui sont très jeunes, mais bon, je suppose que vous êtes là sur la planète depuis au moins 25 ou 30 ans quand même. C'est donc l'Internet un nouvel outil que nous avons pris l'habitude d'utiliser toute la journée. On a nos BlackBerry, on les emmène aux toilettes, on dépend de l'Internet, son utilisation des réseaux sociaux et on dépend parce qu'on dépend de cela. C'est donc un outil important sur lequel qui doit être constant, qui doit être disponible et responsable. On a désigné un système qui associe un chiffre avec chaque nom de domaine. Et un de nos collègues, Kala Rachid, quand il partage avec ses amis ce que nous faisons, parce que des fois les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on fait, et lui il dit on fait fonctionner l'Internet. Et oui, c'est vrai, en fait, on fait fonctionner l'Internet. L'aspect technique de ces chiffres, c'est nous qui sommes responsables pour ça. Donc, si nos partenaires qui sont accrédités avec ICANN, l'enregistreur, les opérateurs d'enregistre, ne soient pas conformes avec leurs accords avec nous, ça serait le chaos et il y aurait des inefficacités. Donc c'est très important que tout le monde soit conforme. Donc quand on agit, et c'est important que les parties concernées répondent rapidement pour qu'on puisse se lever tous les matins et passer sur l'Internet et que pour nous ce soit tout à fait normal. Donc l'importance de la conformité contractuelle. Certains des problèmes que nous adressons quand il s'agit du DNS, c'est les disputes de marques déposées. Disons qu'on est tous familiers, par exemple, avec McDonald's. Hein? Donc, si quelqu'un enregistre le nom McDonald's et qu'il va épeler le mot McDonald's avec deux D au lieu d'un, il y a des gens qui font des erreurs quand ils font un marque et tapent le nom d'un domaine sur l'ordinateur. Donc, cette page pourrait avoir beaucoup de trafic parce que les gens ont mal épelé McDonald's et qu'ils ont mis un D supplémentaire. Donc, les gens, il y a des gens qui le font de façon intentionnelle. Donc, si quelqu'un passe au-dessus de ces marques déposées, le propriétaire de cette marque déposée peut poser donc une plainte ou peut mettre, envoyer au tribunal cette personne pour protéger ses intérêts. Donc, ICANN a développé un processus de résolution de disputes qui ne coûte pas très cher pour donc protéger ces marques déposées. Pour résoudre donc ces disputes, c'est un processus de disputes que beaucoup de propriétaires de marques déposées utilisent pour résoudre leurs problèmes d'une façon rapide. Une autre chose, nous utilisons les WHOIS, des informations qui sont proposées sur une personne qui propose un nom de DNS comme votre numéro de téléphone, votre adresse, votre nom, toutes les informations qui sont personnelles. Cela devient une information publique. Dans le cas où quelqu'un a besoin de vous contacter pour un problème qui soit relaté à ce DNS, il y a des informations publiques qui ont donc rendu public pour les gens qui enregistrent ces noms de domaine. Donc, la plupart du temps, il y a des gens qui ne veulent pas donner ces informations personnelles pour pas qu'elles ne soient publiques. Donc, il y a des gens qui donnent des informations fausses. Ils pourraient mettre Mickey Mouse dans les données WHOIS. Il y a donc une requête dans votre contrat. Quand vous signez, vous devez donner des informations qui sont justes. Si vous ne le faites pas, il y aura des conséquences. Donc, notre contrat, encore une fois, demande à ce que ces registrants nous donnent, fournissent des informations justes. Et c'est une des choses que nous faisons pour aider le public, pour que le public puisse retrouver des informations sur telle ou telle entité, sur telle personne qui a enregistré tel domaine. Ça devient aussi important pour les forces de l'ordre quand ils veulent essayer de résoudre des crimes qui sont relatés à l'Internet. D'autres problèmes que nous adressons de façon courante, ce sont les transferts de noms de domaine. Nous avons développé une politique qui permet aux registrants, donc ceux qui enregistrent des noms de domaine, de transférer de façon gratuite à d'autres personnes où ils ne sont pas contents avec le registraire, ou alors ils sont contents mais ils veulent payer moins d'argent pour quelque raison que ce soit. Donc, si un registreur accrédité n'est pas conforme avec les politiques, il y a des conséquences. Et aussi, les restrictions d'enregistrement. C'est aussi une des conditions dans nos contrats, de notre responsabilité. Quand vous enregistrez un nom de domaine, vous vous engagez à ne pas utiliser ce nom pour faire du mal à une autre partie. Vous ne pouvez pas non plus utiliser ce nom de domaine pour des mauvaises, dans des objectifs injustes. Donc c'est important de savoir que ICANN n'a pas l'autorité pour adresser des problèmes que le domaine peut apporter dans l'après-marché. Ce qu'on appelle l'après-marché, c'est le marché où vous pouvez acquérir un nom de domaine en négociant avec une partie qui a déjà enregistré le nom de domaine et qui participe à une enchère pour un nom de domaine. Encore une fois, ça s'appelle après-marché, marché secondaire. Nous n'avons pas l'autorité contractuelle pour agir dans tout ce qui se concerne cet après-marché. C'est facilité par des maisons de vente d'enchères où les vendeurs communiquent pour obtenir des affaires, pour faire des affaires sur les noms de domaine. Nous n'avons aucune autorité là-dessus. Le nom de domaine, les utilisations des noms de domaine, les problèmes, ces problèmes qui les concernent. Je pense que Maggie en a parlé tout à l'heure. Tout ce qu'il y a à voir avec le contenu des sites web. Si une partie utilise un nom de domaine et qu'il met un site où ils vont montrer de la pornographie ou qu'ils vendent des drogues sans licence pour le faire, nous ne pouvons pas agir parce que nous n'avons pas l'autorité de de contenu, tout ce qui s'agit du pourriel ou le phishing. Combien d'entre vous sont familiers avec le terme phishing? Vous savez ce que ça veut dire, hein? Phishing? Pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, j'avais dit que j'utiliserais, on essaie d'obtenir des informations à nom d'utilisateur ou d'autres détails qui concernent quelqu'un. J'écris, j'ai fait des notes, mais j'arrive pas à voir sans mes lunettes, excusez-moi. C'est essayer d'obtenir des informations, un nom mot de passe ou des détails de carte de crédit par une source qui n'est pas accréditée. Donc vous pourriez obtenir des informations d'un lien. On dirait que c'est votre banque, mais c'est pas vraiment votre banque. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez mettre votre numéro de sécurité sociale. Ils vont utiliser ça pour une raison autre. Donc c'est encore des choses où on n'a pas d'autorité. On ne peut pas s'occuper de ça. Il y a le malware aussi. C'est des logiciels maléfiques qui vont mettre des virus dans vos opérations. Il y a aussi le crime cyber. Et ça, c'est les forces de l'ordre qui sont concernées pour le crime cyber. Nous, en tant qu'ACAN, nous n'avons pas l'autorité. Nous avons des autorités contractuelles, mais ces choses-là sont complètement à l'extérieur de l'amplitude de notre contrat. Voilà donc les informations sur les activités, sur les choses que nous avons fait dans les 3 mois passés. Ici, nous avons une diapositive qui vous donne les informations sur le nombre de plaintes par domaine, par nom de domaine. Et je voudrais passer à parler de ce qui se passe en Europe, par exemple. Si vous regardez en haut, cela dit, de la partir de 12 février, le volume par million. Vous avez ici 21,2 noms de domaine qui est enregistré. 21,2 millions. Et à côté de ça, c'est en 1000 de ces 21,2 millions. ICANN a reçu 1596 plaintes. Qui est donc relaté à ces enregistrements sera présente donc 0,008% du chiffre total d'enregistrement de DNS dans la région Europe. Si vous regardez en bleu sous cela, vous avez le nombre de registraires par région. Registraires, ce sont les entités qui ont un contrat, un accord avec ICANN pour vendre et offrir des noms de domaine. En Europe, il y en a 141. Qui sont accrédités par ICANN. De ces 141, 67 ont reçu des plaintes qui concernent les 1596 plaintes dont j'ai parlé tout à l'heure. Cela représente 47,5% des registraires dans la région Europe. Donc la moitié des registraires ont reçu des plaintes. De mars à mai 2012. Et vous pouvez regarder les autres régions quand vous aurez le temps. Je voulais juste expliquer le graphique. Comme ça, vous pouvez y retourner plus tard. J'ai mentionné que nous avons des registraires qui sont accrédités par ICANN, ces entités qui offrent des noms de domaine au public. Et ensuite, nous avons des registres. Ce sont les entités qui maintiennent les raccords, toutes les informations. Pour cela, si vous voulez un .com, il y a une entité qui va surveiller et contrôler toutes ces données. Si le registraire va peut-être vous contacter, vous dire que ce nom n'est pas disponible. S'il n'a pas été enregistré, le registre va regarder et va dire que ce nom n'a pas été enregistré, donc c'est disponible. On va vous communiquer cette information et vous allez recevoir une notice qui va dire oui, vous pouvez enregistrer ce domaine si vous êtes intéressé. Donc nous avons 18 registres, opérateurs de registres, et nous recevons des rapports mensuels en ce qui s'agit de leur performance. Et entre mars à mai 2012, nos opérateurs de registres ont fait le rapport qu'ils étaient 100% de conformité avec la disponibilité des domaines. Ils offrent donc tous les services qu'ils doivent offrir de façon régulière. Ils nous disent quelles sont les informations OUIS qui sont disponibles, les DNS qui sont disponibles de 24 heures sur 24, qu'il y ait un accès au registraire qui soit égal à travers le système d'enregistrement partagé. Donc, tous nos registraires qui ont des contrat avec les opérateurs de registre, ils ont toujours accès pour obtenir l'information qui est disponible sur les noms de domaine de la part des registres. Ces registres ont rapporté qu'ils n'avaient pas reçu de plainte. Sur cette diapositive, vous voyez aussi l'information. Nous avons deux sujets qui sont sous enquête quand il s'agit de non-conformité avec deux opérateurs de registre. On est encore dans la phase requête, donc on n'a pas fait de détermination jusqu'à présent.
Donc, la prochaine diapositive vous donne des informations sur l'évolution des plaintes dans différentes régions du monde. Donc, récemment, nous avons effectué le suivi de ces évolutions. Et si vous regardez le schéma pour les Amériques, qu'est-ce qu'on appelle un graphique à barre. Si vous regardez le graphique à barre des Amériques, vous verrez qu'il y a eu une poussée en mars due à un nombre abondant de plaintes par un registreur particulier. Mais aux États-Unis, dans les Amériques, il y a beaucoup de plaintes qui ont été soumises en mars. Si vous regardez en Europe, il n'y a qu'une tendance ascendante avec une poussée importante en mai. Et ensuite, si vous analysez le graphique de l'Asie, il semblerait qu'il y aurait tendance croissante générale des plaintes. Et en Océanie, il y a plutôt une tendance inverse vers la baisse. Et en Afrique, aucune plainte. Donc, il me semblerait que les tendances générales, l'évolution générale, il y aurait donc eu cette poussée en mars où nous avons obtenu un total de 7000 plaintes pendant la période entre mars et mai 2012. Donc, les plaintes en ce qui nous concerne, reflète le fait qu'il y ait une mauvaise compréhension en termes de provision contractuelle ou quelque chose qui se déroule qu'il faudrait aborder dans une région particulière. Donc, c'est pour ça qu'il est important de surveiller l'évolution des plaintes et la nature, des plaintes que nous recevons. Donc, cette graphique nous donne une idée du type d'informations que nous recevons et leur situation en termes de processus de résolution. Donc, leur situation dans ce graphique circulaire, la plupart des plaintes portent sur l'inexactitude WHOIS. Et ce sont les informations que vous devez fournir pour inscrire un nom de domaine. Et il y a une deuxième catégorie, ce sont les transferts de nom de domaine quand on transfère d'un registre accrédité ICANN à un autre. Donc, vous pouvez voir à partir de l'analyse sur la main droite de la diapositive, vous verrez donc que nous avons 15 292 plaintes reçues et parmi celles-ci, nous avons dû les escalader à phase de mise en application où nous envoyons un avis de suspension, où nous avons résilié le contrat parce qu'ils n'ont pas résolu la violation contractuelle. Donc, comme cela se reflète dans la diapositive précédente, nous avons un processus informel. Non, je n'ai pas dit cela, mais un processus informel. Nous en avons un informel et un informel. Dans le cadre du processus de résolution des disputes informelles, nous surveillons le nombre d'avis que nous devons envoyer afin qu'une partie retourne à un état de conformité. Donc, nous avons un avis en trois étapes. Nous envoyons un avis d'enquête et nous demandons donc des informations du registreur. Si la réponse ne revient pas ou est qu'elle est inappropriée, nous enverrons un second avis. Encore une fois, si le registreur ne répond pas ou la réponse n'est pas approprié, est illogique, on envoie ensuite un avis final. Si vous ne corrigez pas les choses, nous l'escaladons et votre contrat sera menacé si vous ne respectez pas les conditions stipulées par l'avis original. Donc, le pourcentage des avis premier avis, de deuxième et de troisième avis. Donc, si vous regardez l'UDRP, c'est ce qu'on appelle la politique de résolution de disputes unifiées pour résoudre les plaintes liées aux marques de commerce. Par exemple, si nous recevons 10 plaintes rapportant aux UDRP, 6 exigent, parce qu'il y a 60%, 6 exigent qu'ICANN envoie un premier avis. Parmi ces 60%, disons 6, donc 4 d'entre elles exigent qu'on envoie un second avis parce que le registraire n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et dans ce cas-là, il semblerait que toutes ces plaintes aient été résolues à la suite de la première ou seconde avis. Donc, c'est comme ça qu'il faut interpréter les pourcentages présentés sur cette diapositive. Donc, si vous voulez obtenir des ressources additionnelles sur la conformité contractuelle, on vous offre ici des liens, des hyperliens. Et si vous pensez que quelqu'un serait qualifié, nous aimons les gens intelligents qui ont un sens de l'humour. Donc, ne nous envoyez personne qui n'ont pas ce type de compétences. Donc, on vous encourage à consulter ces ressources. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter au moyen de cette adresse électronique. Et merci d'avoir écouté notre présentation. Si vous avez des questions, nous serions heureux d'y répondre. Nous avons ajouté des informations additionnelles au cas où vous n'auriez rien à faire et vous voulez avoir des informations additionnelles sur la conformité contractuelle. Vous pouvez voir à travers de l'annexe. Nous avons toutes ces magnifiques informations sur les processus de consensus, la précision à Whois et le transfert de registre. Je sais que vraiment vous voulez lire là-dessus ce soir, absolument ce soir. Donc, cela dit, cela conclut notre présentation. Il nous reste un peu de temps pour des questions, si vous en avez. Des questions pour la conformité? Pour Stacy? Oui, une question. Gary Amberg de Jamaïque. Lorsque vous obtenez les plaintes sur la conformité, quels sont les délais avant de les résoudre lorsque vous collaborez avec le médiateur pour résoudre ces plaintes? Le premier volet, donc lorsque nous recevons une plainte, combien de temps s'écoule avant de résoudre la plainte? Et le second volet, pouvez-vous répéter le médiateur, est-ce que vous collaborez avec le médiateur pour résoudre certaines de ces plainte. Merci pour vos questions et je vais essayer de revenir à la diapositive. Sur cette diapositive, nous ne voulions pas vous submerger des délais entre les différentes phases de processus, mais je peux aborder cela ici. Cette approche de conformité, les trois premières étapes doivent respecter certains délais en termes de réponse des parties contractuelles. Nous essayons d'établir une approche uniforme à toutes les provisions. Il y a en général, il faut 5 jours ouvrables pour une réponse et nous présentons une date spécifique dans l'email ou dans l'avis que nous envoyons, une date où nous attendons une réponse. Et sur la base du contrat, cela nous force à envoyer dans un délai de 15 jours pour obtenir une réponse à la première avis. Donc, 5 jours ouvrables pour que la partie contractuelle réponde à la conformité contractuelle et présenter les données que nous avons exigeons. Et en général, la pratique usuelle, c'est que nous obtenons les réponses même avant ce délai et dans la phase de mise en œuvre. Une fois qu'il y a une mise en œuvre escaladée, un avis de violation est émise avec une date spécifique, un délai spécifique, une date butoir spécifique, et il est émis et affiché. Et nous devons respecter cette date butoir. Encore une fois, nous suivons la chronologie en fonction de l'avis de violation affiché. Donc, il est clair que le J'anticipe une question. Combien de temps est-ce que la mise en l'application fournit une réponse en fonction de du nombre de du volume d'informations qui doit être validé? Donc en ce qui concerne la collaboration avec l'Ombudsman, nous recevons parfois des plaintes de notre médiateur et nous les abordons afin que la collaboration, donc nous, la collaboration existe. Est-ce que nous avons des questions à distance dans la salle de bavardage, la salle de chat? Bien. J'arrive avec le microphone. Je m'appelle Shehu du Nigeria. À partir de du graphique que vous nous avez présenté, c'est que nous n'avons pas de plainte d'Afrique. Ma question est la suivante. CCTLD peuvent-ils également soumettre des plaintes? Est-ce que vous avez des plaintes des CCTLD? Nous n'avons pas autorité pour dicter ce que font les CCTLD, font ou ne font pas, et les plaintes portant sur les CCTLD sont orientées aux CCTLD spécifiques. Donc, si vous voulez avoir des observations sur le nombre de plaintes reçues par ce CCTLD, il faudrait les contacter individuellement et ils pourraient vous soumettre ces informations. Bonjour, je m'appelle Berengelen de Gambie. Je suis curieuse. Est-ce que tous vos employés sont avocats ou est-ce une condition? Non, comme Stécia dit, ils sont intelligents avec un sens de l'humour. Non, ce n'est pas le cas. Si vous allez sur le site web ICANN, nous avons plusieurs positions, postes ouvertes, avec une exigence. Je ne suis pas avocate. J'ai plutôt des antécédents, une expérience dans le commerce et la technologie. Beaucoup de compétences sont importantes, mais consultez nos affichages. La raison pour laquelle c'est Stacy et moi, nous mettons l'accent sur l'intelligence et le sens de l'humour, c'est parce que nous recevons des plaintes. On ne nous appelle jamais pour nous dire comment on va. On ne veut pas savoir comment on va. Donc, il faut avoir un bon sens de l'humour. Donc, c'est vraiment une exigence primordiale. Donc, je vous assure tous que nous avons un personnel fantastique. J'ai beaucoup de chance de travailler avec des gens très intelligents, dotés d'un bon sens de l'humour. Merci, Stacy. Merci, Margot. Je crois que nous allons clore. Vous étiez les dernières stars de la session des nouveaux venus, donc on va laisser tout le monde, libérer tout le monde. Avant cela, j'ai eu quelques annonces. Merci d'avoir supporté jusqu'à présent. Vous êtes ceux qui ont la peau dure et les durs à cuire. Donc, j'ai une annonce un peu spéciale. Nous avons cadeaux. On a des cadeaux pour vous tous, mais je n'ai pas encore fait l'annonce au début du jour. Nous avons des balles pour anti-stress qui sont conçues pour vous souhaiter la bienvenue. Ce sont des petites balles et sont douces au toucher et faciles pour jouer. Allez au salon des nouveaux venus et obtenez votre nouveau cadeau. Donc, si vous êtes sur des médias sociaux, suivez les comptes ICANN. On utilise cela pour diffuser des annonces. Donc, si vous n'entendez pas, vous pouvez apprendre les dernières nouvelles à partir des médias sociaux. On a des sondages. On veut améliorer ces sessions chaque fois plus en fonction des rétroactions, des commentaires que nous recevons. Et nous organisons ces sessions très souvent et au cours des trois dernières conférences, nous avons effectué beaucoup d'améliorations. Vous allez recevoir des courriels vous orientant vers un lien de sondage et on va vous demander ce que vous pensez de votre expérience dans le salon et ici. Donc, soyez honnête et faites-nous savoir ce que vous en pensez. Et pour terminer, bienvenue à ICANN. J'espère que vous aurez une bonne semaine. Si vous avez des questions, venez nous parler. On a toujours le temps pour vous écouter. Merci.